Radio Capi, grand témoin.
Il est fondateur de la solidarité syndicale des travailleurs et cadres nationaux du Congo Solidarité, actuellement en politique et président du parti travailliste PT, Steve Mbikayi, est celui que grand témoin reçoit pour vous aujourd'hui. Monsieur Mbikayi, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation.
Et bonjour, merci pour l'invitation.
Avec vous dans notre émission, nous parlerons de votre personne, c'est-à-dire on va vous faire découvrir auprès des auditeurs des Radio Capi qui nous suivent en ce moment. On parlera de votre carrière professionnelle, vous nous direz comment vous vous êtes retrouvé dans la politique aujourd'hui, mais en passant par votre combat dans le mouvement syndical national du Congo, nous n'en sommes pas encore là. Commençons par une brève biographie de vous. Vous naissez un certain 23 janvier 1964 à Kassansa. Oui, voilà. C'est où Kassansa?
Kassansa, c'est un petit village du Kassai oriental, une mission catholique.
Voilà. Et c'est là que vous passez votre enfance? Vous faites vos études primaires et secondaires?
Non, j'ai passé une partie de mon enfance dans un autre petit village qui s'appelle Chibata, toujours nord-ouest de Kassansa, dans le Kassai oriental. C'est là que j'ai commencé les études primaires, première, deuxième primaire, avant d'aller les poursuivre au Katanga à Musoshi, Musoshi Solimiza, comme on l'appelait à l'époque. Donc, quand j'ai fini mes études primaires, je suis parti à Kindu, au Kivu, poursuivre les études techniques à l'Institut technique de Kindu. Et puis, quand j'ai terminé mes études techniques, je suis venu à Kinshasa pour poursuivre les études d'ingénieur à l'ISTA.
Pourquoi ce changement? D'abord, c'était, vous avez commencé au Kassai oriental, vous êtes allé au Katanga, au Kivu et puis Kinshasa.
Oui, le problème, c'est que d'abord, mon père, qui était un policier à la territoriale, ne voulait pas que je reste longtemps au Kassai, étant donné que la plupart des jeunes gens n'étudiaient pas. Comme le diamant venait à être libéralisé, tout le monde était dans des puits de diamants. Alors, comme il voulait son fils étudier, aller plus loin, il a préféré m'envoyer chez son frère qui travaillait, je sais pas, à la Sodimisa pour aller étudier au Katanga. Alors, comme mon oncle était chaque fois muté, bon, j'étais avec dans la mutation, ce qui a fait que j'ai été à Musoshi, à Lubumbashi, j'ai été à Kindu et tout ça avant de venir à Kinshasa pour suivre l'étude d'ingénieur, d'abord premier cycle et puis deuxième cycle, voilà.
Dans quelles conditions vous avez grandi?
Issu d'une famille modeste, vous voyez, mon père en tant que policier territorial vivait plus de travail de chambre, il n'avait pas assez de moyens.
Quel est le plus beau souvenir que vous gardez de votre enfance?
C'est que toute cette enfance difficile m'a permis d'être combatif, en tout cas je l'ai su, combatif, parce que j'ai affronté la vie très jeune, et puis quand je voyais par exemple comment les gens qui étaient en bonne position vivaient trop bien avec leurs enfants, et que nous, bien que mon père travaillait, mon oncle travaillait, on souffrait, j'ai commencé à lutter contre les injustices. Donc, ce que j'ai comme acquis, c'est cette volonté de me battre, de ne pas dépendre, de foncer toujours, compter d'abord sur mes capacités et surtout être à l'avant-plan de tout le combat sociaux, en commençant par l'école secondaire, où j'étais toujours commandant de mon école, même au supérieur, toujours dirigeant, et quand j'ai fini, toujours syndicaliste. C'était... C'était révolte de voir que on n'est pas né pour souffrir. Il fallait se défendre, mais aussi défendre les autres. Ça, c'est vraiment pour moi un grand acquis.
Alors après vos études supérieures, vous êtes engagé à l'ONATRA.
Oui, je suis engagé à l'ONATRA. D'abord, même avant de finir mes études.
Vous étiez déjà engagé à l'ONATRA?
Oui, j'étais encore étudiant. J'ai passé l'été d'embauche avec Brio. J'étais engagé comme d'abord agent de maintenance. Et quand j'ai fini mes études, j'étais ingénieur au port. Au port de Kinshasa, toujours à la maintenance. Et puis, j'ai fait la gestion de la maintenance, constatant bien les injustices dans l'entreprise, parce qu'à l'époque, je trouvais les gens avec des salaires de misère, de 10 dollars, de 20 dollars, et j'ai dû mener une révolution encore. Comme je le faisais quand j'étais encore étudiant, j'ai toujours mobilisé les masses contre les autorités, d'entités. J'ai commencé un combat, on en sera 2 ans après mon engagement.
Donc,
j'ai
commencé, et c'est ça qui vous a poussé à mettre en place le mouvement syndical Sinagona?
Oui, Oui, parce que quand je commençais à écrire des lettres ouvertes au PDG de l'époque, qui s'appelle M. Mbeke Mitala, et à tout le syndicat dont je dénonçais la complicité avec l'employeur, ben les gens commençaient à me suivre, puis j'ai lancé un moteur de grève sans syndicat. Les gens m'ont suivi. Il y a eu grève partout, à Kinshasa, à Matadi, à Kisangani, alors que j'étais qu'un simple nouvel engagé.
Quel courage vous aviez à cette époque?
Bien sûr, parce que tu vois, à l'époque, là, avec 89, les gens avaient trop peur. Il y avait un syndicat unique.
Et vous n'aviez pas peur de votre vie?
Non, mais je me disais que si j'avais peur, en tout cas, je finirais toujours mal. Parce que vivre dans la misère, franchement, c'est mourir tous les jours. Bon, autant me battre pour m'en sortir. Ou alors mourir physiquement plutôt que vivre toujours dans la misère, qui est aussi une mort permanente. Alors, quand j'ai fait ça, les gens ont commencé à parler de moi presque partout. On m'a révoqué. Je n'avais pas d'appui à Kinshasa, rien du tout. Avec mon groupe, j'ai dû faire. Je peux dire que je suis le premier Congolais, Zaïrois à l'époque, à avoir fait une grève de la faim au Parlement de l'époque de Mobutu, sous Anthony Bembe, qui était président. Après la grève de faim, le Parlement avait écrit...
Une grève de faim de combien de jours?
J'avais fait 3 jours, hein, pratiquement, je continuais, j'ai dormi là-bas avec mon groupe. Alors, Anthony Bembe avait écrit à Mounmalo Koji, premier ministre à l'époque, pour qu'il intervienne. Alors, après l'intervention, j'étais repris sur demande du gouvernement. Alors, quand j'ai repris, j'ai compris que lutter seul, c'était trop risqué. Il fallait créer un syndicat, parce que plus on sera nombreux, plus on sera fort. Voilà pourquoi je créais, en 91, je crois, le syndicat national des agents du groupe Onatra, donc Sinagon, qui était trop populaire, parce que vous savez, à l'époque, quand je passais à l'Onatra...
Et ça, c'était juste pour les agents de l'Onatra.
Seulement pour les agents de l'Onatra qui étaient à environ 18 000. Hein. À l'époque, vous savez, ben, quand moi j'entrais dans un chantier, le travail s'arrêtait. Tout le monde a couru. Quand je passe au couloir du bâtiment administratif, tout le bureau s'est vidé. Alors que j'étais qu'un petit garçon mince, ben, qui n'avait pas grand-chose, mais qui avait beaucoup de convictions, et tout le monde suivait le mot d'ordre, même quand je dis ne touchez pas votre salaire, même sans explication on ne touche pas, et d'ailleurs à l'époque on m'appelait notre Titi Junior. Donc, c'est une élection à lobby, te rejoignait. Et on ne prenait pas. Donc, si bien que aux élections syndicales, j'avais 93% de suffrage dans l'entreprise. Et ça, c'était mon départ. Et c'est comme ça que...
Vous aviez des appuis extérieurs ou vous vous êtes engagé seul dans cette lutte parce que vous recherchiez le changement?
Je m'étais lancé tout seul. Et après, j'ai eu l'appui de tous les travailleurs. Au point que, en 96, les gens disaient de moi que j'étais de l'UEPS. Et pourtant, je ne l'étais même pas. J'étais seulement quelqu'un qui revendiquait, qui avait des idées trop à gauche, quoi. Et vous savez, en 96, quand Kengo, Tamouamba et Mobutu avaient privatisé la SNCZ,
à l'époque,
pour créer Cisaray, on avait mis autant de gens à la porte, et l'Onatra était aussi privatisable. Tout était fait, le contrat signé. Mais grâce à mon action en 96, j'avais fait échec parce que j'avais fait faire une grève terrible qui avait bloqué le chemin de fer, le port de Matadi. Donc tout était bloqué au point que à Kinshasa, les denrées alimentaires montaient les prix. Et cela avait poussé le maréchal le Mobutu à me chercher, envoyer les gens à Kin me chercher jusqu'à Guado, où j'ai passé une semaine en train de causer avec lui. Il était tellement émerveillé.
Émerveillé par vous qui étiez en train de combattre le pouvoir?
C'était un félin, Mobutu, parce que quand je suis arrivé à sa ferme, en me voyant, il m'a dit « C'est vous Mbikaï ?» J'ai dit « Oui ». Il m'a dit « Tu as fait trembler Kengo ?» Donc il en faisait maintenant l'affaire de Kengo, premier ministre. Lui s'est metté un peu à l'écart, au point qu'il m'a dit franchement qu'il avait envie qu'il soit son allié par rapport aux joutes électorales qui arrivaient. Et même après, parti aux soins en France, il a envoyé son fils, Saddam, me chercher ici pour aller causer avec lui en France, tellement il était content de ma façon de faire les choses, quoi. Donc, alors, quand toute l'opinion a trouvé l'importance de mon syndicat Onatra, d'autres employés d'ailleurs commençaient à me chercher pour amener mon syndicat chez eux. Et pourtant, d'après le statut, c'était un syndicat pour les agents de l'Onatra. Voilà pourquoi en 96, j'ai dû modifier les statuts, convoquer un congrès et créer solidarité syndicale des travailleurs et cadre du Congo.
Là, c'était pour tous les travailleurs,
solidarité.
Pour toutes les entreprises.
Oui, là, c'était maintenant la GECAMINE, la Régie des Eaux, la
FL. Un syndicat qui a fait parler de lui.
Ah,
hein.
Bien sûr que oui, et qui, jusqu'à
aujourd'hui... Et qui vous a même, c'est vrai que vous étiez déjà connu, mais qui vous a encore propulsé.
C'est le syndicat qui m'a propulsé. Entre moi et mon syndicat, c'est comme l'histoire de l'œuf et de la poule. On ne sait pas qui a fait qui, pas c'est moi qui l'ai créé. Et le syndicat m'a propulsé, je ne peux pas nier. C'est aujourd'hui un des grands syndicats, donc ce n'est pas une mince affaire. Mais après, j'ai trouvé que le combat syndical n'est porté pas. Parce qu'on a en face un système politique corrompu. Vous voyez, on s'est battu pendant presque 20 ans. Les conditions de travailleurs ne changent pas. C'est toujours la misère. C'est comme ça que je me suis décidé d'embrasser la politique. J'ai préféré prendre le pouvoir suprême moi-même pour trouver des solutions aux problèmes des prolétaires ou des exclus. Voilà qui m'amène en politique.
Et vous pensez qu'en politique, vous allez faire changer les choses? C'est depuis 2003 que vous faites la politique.
Bien sûr. C'est d'abord comme société civile, on est parti au dialogue intercongolais pour le compte. Tous les syndicats congolais m'avaient délégué au dialogue intercongolais pour parler en nom de tous les travailleurs. Et de retour de là, j'étais désigné député de la transition. Et après quelques mois, j'étais aussi pour le compte civil nommé mandataire à l'ONATRA, ou en passant, je suis directeur de département dans cette entreprise. Alors, c'est comme ça que j'ai pu retrouver un mandataire. Après avoir été député et mandataire, j'ai trouvé malsain de rentrer dans le combat syndical encore. Et un syndicat d'ailleurs qui ne portait pas trop bien, vu le système qui est dans notre pays. Et je me suis dit, syndicaliste, c'est pas loin de travaillisme. Parce que le travaillisme, par essence, découle du syndicalisme. Et c'est comme ça que je crée un parti politique.
Vous êtes découragé un peu parce que ça n'a pas porté des fruits, le syndicat.
Pas découragé. Davantage, motivé pour aller plus loin.
Comme mais il fallait rester dans le syndicat que de faire la politique.
Non, rester dans le syndicat avec en face un système politique corrompu, ça sert à rien. Les gens qui sont sourds, qui n'entendent pas les revendications de la masse ouvrière. Je me suis dit, non, dans ces cas, il faut renverser les bourgeois au pouvoir afin d'installer dans ces pays un pouvoir socialiste plus à gauche, un pouvoir qui cadre avec nos réalités et traditions africaines. Et c'est comme ça que j'ai créé un parti politique qui prône comme idéologie le solidarisme africain. C'est une idéologie que moi-même j'ai mis sur pied.
Monsieur Steve Mbikai, aujourd'hui vous êtes président du parti travailliste PT en sigle, un parti qui est dans l'opposition, mais en 2006, après le premier tour des élections et même après l'élection du président Kabila, vous étiez dans la majorité.
Ah oui, voilà, il faut l'expliquer. C'est parce que vous savez, au premier tour, en 2006, j'étais opposé au système kabiliste. Mais après, il y a eu deuxième tour, vous savez. Au deuxième tour, même ceux qui étaient adversaires hier, ceux qui attaquaient, donc, peuvent s'entendre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je regardais sur la scène, moi, syndicaliste, un homme de gauche, je ne peux jamais partiser ou alors voter pour un homme de droite. Il restait deux candidats en lice. Nous avions d'un côté M. Jean-Pierre Bemba, MLC, sympathie libérale. Il restait d'un côté M. Kabila, avec un parti, PPRD, sur papier, qui prétendait être à gauche. Je me suis dit, entre les deux mots, je prends le moindre mal, et je penche pour ce qui est à gauche. Mais par la suite, je me suis rendu compte que la gauche de M. Kabila, c'était une fausse gauche, parce qu'en pratique, la politique qui est menée, c'est pour les nantis, pour ceux qui ont l'argent, et pas pour la grande masse. Et surtout à cause des promesses non tenues.
On vous a promis un poste, mais puis vous ne l'avez pas eu.
J'ai dit promesses non tenues par rapport au programme de campagne de la majorité. Vous savez, beaucoup de promesses n'ont pas été réalisées. Et comme j'étais dans le système, ne jouant aucun rôle, je me suis dit, je ne peux pas endosser.
Vous ne pouvez pas retrouver, c'est ça.
Je ne peux pas endosser l'échec d'un groupe dans lequel je n'ai aucun rôle. Il fallait voir le mal de loin. Et j'ai préféré sauter du navire qui va chavirer. Comme on dit, que l'homme prudent voit le mal de loin. J'ai vu le mal et je me suis sauvé avant qu'il soit trop tard.
Vous ne craignez pas d'être traité de versatile? Aujourd'hui, vous êtes dans tel camp. Lorsque vous ne vous retrouvez pas, vous changez de camp, ainsi de suite.
La versatilité, c'est quoi? Il ne faut pas parler versatile, pas peur aux hommes. Parce que si on croit que quand on est avec X, on le quitte, on est versatile. Non, nous sommes dans une option. Exemple, maintenant, je me dis socialiste, donc solidariste africain. Je présente mon point de vue aux camarades qui adhèrent au Parti travailliste. Et par la suite, ils se rendent compte qu'en pratique au pouvoir, par exemple, je pratique un programme libéral ou capitaliste. Quand ils me quittent, eux ne sont pas versatiles. C'est moi qui aurait changé. Toi, elle croit encore dans notre pensée du départ. Donc, comme je suis socialiste, je suis un homme de gauche, quand vous allez à droite, je reste à gauche. C'est vous qui avez changé, c'est pas moi qui ai changé. La politique est en dynamique. Les choses changent suivant les circonstances du moment. Vous ne serez plus quitté, le PT pour aller ailleurs.
Chef d'entreprise, dirigeants des institutions publiques et privées, responsables de syndicats, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche.
Voilà, juste rappeler à nos auditeurs que je reçois Steve Mbikai Mabuluki, fondateur du syndicat Solidarité en politique actuellement, président national du parti travailliste PT.
Alors, supposons même que Jésus ait quitté à cause d'histoire de poste. Vous savez que l'AMPE, c'est un groupe qui n'est pas homogène. Donc, les gens ne sont là-bas que pour la conquête et la gestion du pouvoir. Ils n'ont aucune idéologie commune, aucun idéal. Parce que vous y trouvez les capitalistes, les socialistes, les centristes, les unitaristes, les fédéralistes. Alors, quand on y est, et que pour le parti du pouvoir, par exemple, c'est le tribalisme, le clientélisme, eh ben, la raison suffisante pour qu'elle apporte, pour pas le nier.
Monsieur Steve Mbikai, vous faites partie aujourd'hui de l'opposition. Il y a plusieurs plateformes au sein de l'opposition politique. Comment vous allez vous y prendre pour les élections de 2011, puisque nous aurons des élections à un seul tour?
Oui, nous de l'opposition, bon, disons d'abord que la majorité au pouvoir a cru que nous aurons peur d'une élection à un seul tour. Pas du tout. Si nous on s'opposait à cette révision, c'est parce qu'on ne doit pas toujours continuer à tailler la constitution sur mesure de quelqu'un. Nous sommes prêts pour la bataille. Comme tu dis très bien, on a une démocratie, il y a beaucoup de plateformes. Nous, le PT, nous sommes dans une coalition, une dynamique de front commun de l'opposition qui voudrait que nous ayons un seul candidat valable pour 2011. Et notre coalition a déjà opté pour un candidat.
Votre coalition, laquelle?
Donc, c'est le front commun de l'opposition.
Qui regroupe quel parti politique?
Bon, là-dedans, nous sommes en tractation avant de sortir. Eh bien, on n'est pas en sortie officiellement. On n'a pas encore arrêté non plus la dénomination finale. Eh bien, nous avons l'UDPS, le Parti Travailliste. Nous avons, par exemple, de M. Steve Mbikai, comme vous le savez. L'UDPS de M. Zekedi, et cité de M. Fayoulou, le RADER de M. Le professeur Mampouya. Nous avons Analco. Nous avons beaucoup de partis politiques quand même. On avait l'option de soutenir une seule candidature qui est celle de M. Étienne Tshisekedi. S'il y avait deux tours, on pouvait laisser à chaque leader le temps de s'essayer. Parce que deux tours permettent au moins l'éclosion de nouveaux leaders, n'est-ce pas, au premier tour. On peut voir qui émerge, qui pourrait être dans l'avenir de vrai présidentiable. Et au second tour, on fait alliance.
Votre coalition a déjà un candidat pour les élections de 2011. Sûrement que les autres plateformes de l'opposition aussi ont leur candidat pour ces élections. Vous ne pensez pas que c'est un échec pour l'opposition?
Pas du tout. Bon, comme je dis, l'objectif est que nous puissions négocier avec les uns les autres pour avoir une seule candidature.
Vous pensez que vous allez y arriver?
Il y a par exemple la démarche qui est initiée par l'honorable Jean-Claude Wimba qui est allé voir un leader politique qui voudrait qu'on tienne un forum d'opposition dans lequel on va commencer par mettre sur pied un programme commun de gouvernement et par la suite choisir un candidat unique, enfin un candidat de l'opposition aux élections. Nous, dans la coalition, pour le PT, mon parti, parce que je dois parler au nom de mon parti, pour le Parti Travailliste, nous pensons qu'on ne peut pas s'inscrire dans une démarche où on va d'abord mettre sur pied un programme avec tout le monde, quitte à choisir enfin un leader. Parce que on peut ou ne pas s'entendre après. Alors qui va poser ce programme? Nous nous disons, pour le Parti Travailliste et pour notre coalition aussi, nous disons nous devons d'abord nous mettre d'accord sous les candidats. Et c'est par la suite que nous mettons ensemble pour mettre sur pied un programme, mais aussi un accord de gouvernement pour se dire quand on va gagner, comment ça pourra se passer. Ce parti politique, en fait, sera rétribué au pouvoir à table de sa capacité aux élections. Combien de députés vous avez, combien d'élus vous avez.
Est-ce que le PT, c'est un parti qui pèse?
Ah ben, le PT est très sûr de lui. Très sûr de lui, c'est un parti jeune, mais un parti qui a vraiment la base dans beaucoup d'entités dans notre pays.
C'est pas seulement à Kinshasa.
Pas seulement. Au moins, je vous parle, je crois que ceux qui nous suivent à Lukolela, au fin fond de l'Équateur, ceux qui suivent à Dimbelenge, Kassa-Occidental, ceux qui suivent à Lissala, ceux qui nous suivent à Boma, ceux qui nous suivent à Ovira, ben, à beaucoup, dans beaucoup d'entités, d'ailleurs, je les salue en passant, ben, ils savent que le PT, c'est un parti qui est implanté vraiment dans notre pays. Et voilà.
C'est quoi la vision de votre parti politique, Parti Travailliste? Est-ce que c'est la même vision que vous aviez lorsque vous étiez président du syndicat ou la vision a changé?
Non, c'est un peu le même combat. Pourquoi est-ce qu'on se bat au syndicat? C'est parce qu'il y a divergence entre capitalistes, c'est-à-dire le capital et le travail. Il y a d'un côté une minorité qui, quand on produit, prend tout pour elle-même. Le combat au syndicat était qu'on ait un partage équitable de revenus. Et c'est le même combat que nous menons dans la politique comme étant parti travailliste, un parti de gauche. Le PT prône une école obligatoire pour tous les enfants congolais, comme on le fait dans nos villages. Et aussi, chaque enfant, après avoir terminé l'initiation, devait être cultivateur, chasseur, forgeron. Donc, l'État a l'obligation de donner du travail à tous les citoyens. Mais aussi, quand quelqu'un allait à la chasse, à la récolte, il prévoyait la part du chef. Le chef est chez lui, mais on lui a amené des offrandes. On peut appeler ça impôt. Donc nous devons inculquer l'acquisition d'impôts et des taxes dans nos populations pour donner les moyens à l'État. Et quand le chef recevait tout ça, les gibiers et consorts, ce n'était pas lui seul. Dans un village, quand quelqu'un passait, l'année tombe, il demande c'est où chez le chef? Il va chez le chef, il mange, il dort. Les orphelins, les handicapés allaient chez le chef. C'est le rôle de l'État de pouvoir veiller sur la sécurité des plus faibles, les chômeurs, handicapés et tout ce que vous voulez, enfants de la rue. L'État doit s'en occuper avec l'argent des impôts qu'on donne au chef. Or, ici c'est le contraire. Nous disons abat le capitalisme. Mais vive le capital qui doit composer avec le travail pour le bonheur de tous.
En plus d'être en politique, vous êtes promoteur d'école. Vous dites lutter pour le bien-être de tous. Mais dans vos écoles, on retrouve beaucoup plus les enfants des nantis. Donc, pas accessible à tout le monde. Pourquoi ne pas construire des écoles où les enfants de ceux qui n'ont pas assez de moyens peuvent venir étudier?
Les écoles. Pourquoi les écoles? Je vous ai dit que dans nos villages, on commençait par initier les enfants. C'était l'école. Et je me suis rendu compte que l'école au pays est morte. Parce qu'aujourd'hui, on a des enfants qui finissent l'école primaire sans savoir ni lire ni écrire. Si j'ai dû créer, par exemple, le cartésien, c'était pour que l'enfant congolais formé ici ait le même niveau que l'enfant formé en France.
Pas n'importe quel enfant congolais, c'est ça?
J'arrive. Parce que dans mon école, au cartésien par exemple, les orphelins qui sont appliqués ne payent pas les frais. Et les enfants doués, n'est-ce pas, qui n'ont pas des moyens, on les prend et nous supplions à leurs frais scolaires. Et comme ça ne suffisait pas, j'ai dû créer une autre école, lycée Carnot, toujours avec un bon programme où les frais sont un peu plus abordables pour servir tout le monde. Parce que si je mettais, par exemple, les frais scolaires à 10 dollars, ça serait bien sûr plein. On ne serait pas payé le personnel. J'ai fait comme tout le monde, donc je n'aurais rien fait. Voilà pourquoi on a préféré faire ce qu'on a fait pour qu'on soit à mesure de payer le personnel et qu'on donne aux enfants une formation de qualité.
Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie?
L'injustice que je combats et que je dois toujours combattre.
Alors, M. Steven Vicaille, dites-nous comment vous passez vos moments de détente?
Bon, moments de détente, je ne me gêne pas, même avec toi, après cette émission, descendre en bas, prendre un verre avec toi, en causant avec des amis, donc des anciens collègues, donc ça ne me gêne pas du tout. Même d'aller voir mes camarades qui sont à Mikondo, qui sont à Kingasani, rester avec eux, causer, voir dans la minute ce qui se passe. Donc je peux aller à Maluka, je peux aller prendre un verre à Kingasani, je préfère rester plus proche de la base. Parce que tu sais, tout le monde, nous sommes tous égaux, hein, nous sommes tous égaux. Des fonctions, ce sont des conventions, tu es président, tu es ministre, mais à fin de compte, quand tu es chez quoi, tu pleures. Donc nous sommes tous égaux. Alors à part nos fonctions, on doit rester naturel, rester plus proche de tout le monde, ne pas se croire devenu extraordinaire, au point de faire souffrir la population, tuer, museler et tout ça, ou bien qu'un jour on peut se mettre dans les mêmes conditions. Vous savez, on a connu les gens qui étaient chefs d'État, ben, et puis après un jour, ils sont dans un cachot, comme tout le monde. Donc bref, il faut rester naturel, rester avec tout le monde, voilà, faire tout ce qu'on fait.
Alors aujourd'hui, vous êtes en politique, vous n'êtes plus syndicaliste. Est-ce que vous êtes satisfait du combat que vous avez mené au sein du syndicat national des travailleurs du Congo?
Bon, je suis très satisfait du combat que j'ai mené au syndicat parce que j'étais quand même parmi les plus célèbres. Hein. Je crois que vous le reconnaissez. Quand j'étais à la tête de mon syndicat, je n'ai jamais été corrompu parce que j'ai fait plus de 15
vous
ans.
Vous êtes sûr, monsieur Mbikaï?
Mais sinon, vous savez, quand vous êtes corrompu, hein, ça finit par se savoir par le comportement. Aujourd'hui, en politique, on a les gens qui se disent de l'opposition. Mais tout le peuple sait qu'il mange, n'est-ce pas, à la table du pouvoir. Parce que quand vous avez été corrompu, même votre comportement, quoi que vous fassiez, bon, sera connu. Sinon, je ne laissais pas un syndicat aussi fort. Je l'ai dirigé pendant presque 2 décennies. Et je l'ai laissé très fort, parmi les plus grands syndicats de ce pays. Donc, même aujourd'hui, je vous dis que, c'est pas corruptible. Pas du tout.
Et le syndicat, il est toujours fort?
Il est fort, bien que, sur le plan d'efficacité des actions, c'est pas comme quand j'étais là, mais sur le plan pratique, il est fort. J'ai toujours un droit de regard sur ce syndicat en tant que fondateur et puis autorité morale. Donc, je donne l'impulsion, des conseils, sinon ça marche.
Et les conditions de travail des travailleurs, je m'excuse pour la tautologie, s'améliorent?
Mais je vous ai dit pourquoi j'ai changé pour faire la politique. C'est parce que malgré ces combats...
Et donc là, ça ne sert à rien d'avoir des syndicats dans ce pays puisque les conditions de travail ne s'améliorent pas.
Parce que s'ils ne sont pas, c'est encore pire. Ils font quelque chose pour créer un peu d'équilibre. Mais comme nous avons en face des sourds, des gens qui ne pensent qu'à leurs intérêts, vous savez, ce régime, c'est un régime qui ne pense pas au petit peuple, c'est un régime qui donne aux travailleurs un poulet pour 4 personnes, la bonne année, donc un poulet pour 40 personnes. Donc ce genre de pouvoir, vous voyez...
Si vous étiez dans ce régime, vous n'allez pas tenir ce propos, M. Mbikaï?
Non, je crois que si, je n'y suis pas, parce que je n'aimerais pas d'y être, quoi. Je n'aimerais pas d'y être. Donc un régime qui favorise qui est les plus nantis. Vous savez, violation des droits de l'homme, au quotidien, tout ce que vous voulez, nous devons voir franchement. C'est quoi je dis que l'heure n'est plus à la philosophie, au discours. On doit s'élever comme un seul homme, parce qu'est-ce qu'on pour nous aujourd'hui comme parti d'opposition? C'est que le régime change, mais pour voir démocratique.
Voilà, nous sommes à la fin de notre entretien. Un dernier mot à tous ces auditeurs qui nous suivent en ce moment.
C'est que je salue le membre du Parti travailliste de la République démocratique du Congo, Ouvira, Lukolela, Boma, Dimbelenge, Kananga, Mbujimaï, Tilenge, qu'est-ce que j'ai encore? Et je demande toujours aux gens, quand moi je parle, parce qu'on a parfois des critiques, hein. On peut toujours nous appeler, c'est pas mal qu'ils ont mon numéro d'appel pour qu'on puisse peut-être discuter.
Non, vous êtes libre de donner votre numéro. Bon, mais ne venez pas vous plaindre chez moi après que vous êtes embêté le téléphone.
On peut être embêté par la base, donc on peut toujours réagir, appeler au 089 60 88 735. Donc au 089 60 88 735, on peut continuer à discuter hors micro, avoir des conseils, des idées des autres. Voilà.
Monsieur Steve Mbikaï, je vous remercie de nous avoir accordé ces 30 minutes d'entretien.
C'est moi qui vous remercie, madame.
grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais pour vous Steve Mbikai Mabuluki, homme politique et président national du Parti Travailliste. Merci à Guy Manzangou qui était à la technique. Kelly Nkoute vous a présenté cette émission. Retrouvez-la sur notre site internet www.radiookapi.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.